Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orechem Tovim Veshanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude sur le livre du Sidour de Tfila. Nous sommes à la troisième partie du Hodou. Cette partie-là est composée de 22 versets. En général, ce sont des versets des Tehilim qui ont été glanés ça et là. Alors, cette partie était dite dans le deuxième temple. Mais déjà, dans le deuxième temple, il n'y avait plus de arche sainte, et Hamisha Dvarim, il y avait cinq choses en moins, comme dit la Mishnah, dans le deuxième temple, des choses qu'il y avait dans le premier temple, qui n'existaient pas dans le deuxième temple, et entre autres, il n'y avait pas d'arche sainte. Donc, les versets qui suivent vont remplacer, c'est pour, pallier au fait que l'arche sainte n'existait pas. Le Aron HaKodesh n'était pas dans l'arche, n'était pas dans le temple. Alors nous disons, remémore Adonai Eloheinu ishtahavu l'Adam raglav kadoshu. Remémore, exalté. Hashem Eloheinu, éternel notre Dieu. Ishtahavu l'Adam raglav kadoshu. Et prosternez-vous devant Adam raglav, c'est là où dans un fauteuil, il y a l'escabeau, là où on pose les pieds, le marchepied. Qui kadosh, parce que lui, il est saint. Remets-moi Adonai Eloheinu, exalté, éternel, notre Dieu, ishtahavu l'achotcho, et prosternez-vous devant sa montagne sainte. Car l'éternel, notre Dieu, est saint. Alors, il faut arriver à comprendre que ça veut dire le mot saint. Dans ces deux versets, David aspire à se prosterner dans le temple, mais celui-ci est détruit. Comment faire alors pour expier nos fautes? Les sages disent que les sacrifices sont le fondement du monde. C'est les sacrifices qui tiennent le monde. Il lui permet de subsister par l'expiation des fautes. Comment faire à présent? Mais lui, Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. Il pardonne les fautes et ne détruit pas tout. Il retient sa colère et ne laisse pas son courroux s'exprimer, se déchaîner. Il est dit, Akadosh Baruch Hu, il est fidèle, sans iniquité, juste dans le droit. La justice s'applique sans faillir. Comment alors concilier avec la miséricorde? Alors le Hassid Lutzato dans Mesilat et Sharim, au chapitre 4, il dit, certainement, le principe de la miséricorde est le fondement du monde. Sans lui, il ne pourrait y avoir aucune subsistance sur cette terre. Cependant, la justice n'en est pas pour autant atteinte. Elle va s'appliquer. Selon la stricte justice, il conviendrait que le pécheur soit sanctionné immédiatement. Juste, il a fauté, il disparaît. Sans aucun moyen de réparer sa faute. Et de manière absolue. Comment réparer ce qui a été tordu? Comment réparer le meurtre ou l'adultère? Or, le principe de la miséricorde agit sur ces trois points. Un sursis est donné au pécheur. La punition ne va pas jusqu'à l'anéantissement du fauteur. Et le repentir est accordé à ceux qui se repentent. En considérant la révocation de la volonté de fauter, c'est comme si qu'il arrache la chose à sa source. Comme si que la chose, l'avéra n'a jamais existé. Comme la révocation de l'acte lui-même. La volonté de fauter et l'acte lui-même est détaché. C'est ça, remémore Hashem Eloheinu, v'ishtahavu l'Adam raglav kadoshu. Ça, le sens de prosternez-vous. C'est quand on se prosterne, on s'annule totalement. Kadoshu, ça veut dire, il est détaché de ce monde. Il n'y a pas, la dimension de matérialité ne s'applique pas à lui. Et nous, à travers les mitzvot et l'aspiration à s'attacher à lui, nous voulons justement lui ressembler, donc nous détacher de la matérialité. Quand on dit « Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh », donc tu es détaché de la matérialité. « Ukdoshim, Bechol Yom, Yalelu Chasela » et les saints te louent tous les jours. Donc il s'agit des anges qui n'ont rien de matériel. Et nous, alors nous on aspire à nous détacher, nous sanctifier, c'est-à-dire nous élever, nous détacher de toutes les contingences matérielles. Limiter notre besoin de la matérialité. C'est ça le sens de nous aspirons Et chaque mitzvah doit nous mener à ça. Comme on dit, dans la bracha, Asher kiddeshanu be mitzvota. Chaque mitzvah est l'occasion de nous renforcer spirituellement, d'acquérir des énergies spirituelles qui font qu'on s'élève et qu'on se détache des désirs, des tentations, des besoins de la matérialité. On les limite au strict nécessaire. À tel point que il y a plus de plaisir. Le plaisir, c'est de pouvoir vivre. Mais pas au-delà. Ata Adonai Lotikha Hamecha Mimeni. Toi, Éternel, ne retiens pas de moi tes miséricordes. Hasadecha Vamitecha Tamiditseroni. Tes grâces et tes bontés toujours me protègent. Et sans cesse. Source de bonté, ne les détourne pas de moi. Bien que je ne sois pas apte à les recevoir. Le bien qui nous revient, entre guillemets, de droit, parce que nous le méritons, est le Emet. Ce qui est donné sans mérite est le Hesed. Donc il y a marqué ici deux choses. Ata Hashem Lotikha Hamecha Mimeni. Hasadecha, ce qu'on mérite pas. Vamitecha, ce qu'on mérite, le salaire. Alors c'est le Emet. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un minimum qu'on mérite. Un petit peu. Donc les deux. Et Akadosh Baruch Hu, il ne retient pas de moi. Ata Adonai Lotikha Hamecha Mimeni Hasadecha Mitra Tamitzoy. C'est ce qu'on a dit. Nora Elohim Mikdashecha. Alors Hachem, il est redoutable du lieu de sa résidence, de son sanctuaire. Et l'Israël ou noten roz, à Israël, il donne la vigueur, la puissance, la ham baruch Elohim. Il donne au peuple la force. Béni soit le Dieu. Toute la force et la puissance d'Israël dépend uniquement de la sainteté. Si Israël est saint, alors les nations, Israël a une puissance. Le temple est la résidence d'Hachem. Il est dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. La résidence est en nous. Même s'il n'y a pas de temple, elle est en nous. Nous avons dit qu'Yaakov, Abraham, il a appelé le temple la montagne. Et ça, qu'il a appelé le temple le champ. Et Yaakov l'a appelé une maison. Mais il n'y avait aucune maison là-bas. Donc c'était ou une montagne ou un champ. Mais déjà, comme il a fait la tefillin, alors la résidence, elle était construite à travers la tefillin, à travers la louange, à travers la avoda. Alors, il est où le temple? Il est là où il va. Il y a un com avec nous. Là où il va, il emmène le temple avec lui. Donc, c'est ce qui a marqué. Faites-moi un sanctuaire et je serai avec vous, parmi eux. Il n'y a pas marqué, je résiderai dans le sanctuaire. Il y a marqué, Betocham. Là où le va le peuple, le sanctuaire, il va avec eux. La Kdoucha, elle est où? Comme il est dit au sujet de Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, enlève tes chaussures. Sha'ana alecha me'al raglecha. Ki amakom asher ata omel alav admas kodesh. Il dit, l'endroit où tu te trouves, c'est l'endroit saint. Il dit, comment l'endroit saint? C'est un endroit saint ici? Il dit, là où tu te trouves, c'est un endroit saint. Alors enlève tes chaussures. C'est Moshe Rabbeinu qui amène la Kdoucha à l'endroit. C'est Am Israël qui amène la Kdoucha à l'endroit. Comment? À travers Kiyom Torah Mitzvot, à travers le fait que lui-même se sanctifie. Alors, qu'est-ce que c'est la Kedusha? Donc, il amène la présence de Dieu dans le monde. Là où il va au bureau, alors le bureau, il devient Mechon HaShekhinah. Pourquoi? Parce que ce type-là, il se comporte avec sainteté même au bureau. Il est dans le magasin, il amène la Kedusha. Il va faire ses courses, il est dans la rue, il est un exemple. On sent la HaShekhinah qui marche avec lui. La réussite de l'ensemble de Am Israël, comme celle de chacun, émane du temple. On qualifie Hachem de redoutable. Comment? Il dit parce que comment la notion de redoutable, comment une brebis, elle peut vivre entourée de 70 loups qui sont agressifs, qui sont affamés. La pérennité d'Israël et sa réussite dans de nombreux domaines est parfois irrationnelle. C'est ce que le verset qualifie de redoutable. Nora Alila, Akadosh Baruch Hu, il est Nora. Nora, c'est la qualité de que sa volonté se fait, se perpétue, Am Israël, il se perpétue en dehors de toute la rationalité. Nous poursuivons. En nekamot Adonai, en nekamot Ophia. Ici, on dit, on demande, on invoque la vengeance, en nekamot, les vindictes de l'Éternel. El Nekamotofia, qu'il apparaît ce Dieu de vengeance. Alors, on dit pourquoi? Il n'a séchauffé d'arrêt sa chef Gemou la game. Lève-toi, juste de la terre, inflige un juste châtiment à ceux qui sont orgueilleux. Ici, il faut comprendre c'est quoi la vengeance. Ici, Rabbeinu Ari dit, El Nekamot Hashem, c'est un nom kadosh, Aleph, Nun, Yod. Il faut avoir la kavana de récupérer les dix martyrs, Yarabé Akiva et les Asara Rougé Malchut, qui descendent dans les profondeurs pour récupérer toutes les âmes et les Tzotzot Akedusha qui ont été éparpillées. Alors, ça veut dire quoi, El Nekamot? La Nekama, c'est pas que Dieu, il va se venger. Et si, par exemple, un rachat, il a tué, pardon, les nazis, ils ont pris un grand sadique, ou un enfant, et ils l'ont tué. D'accord? L'assassin, il s'est comporté comme une bête sauvage. Cet enfant-là, il avait un devenir. Il aurait pu être un grand chacham, il aurait pu être un grand savant. Il avait une vie devant lui, il aurait pu écrire des hidushim. Donc, il a tué. Alors, nous, on attrape le rachat qui a tué, on va le tuer. On va se venger. Et comment on va récupérer tout ce qui a été... Ce rachat-là, en tuant cet enfant-là, il a empêché les énergies, les hidushim, la vie de cet enfant-là de s'épanouir, d'amener au monde des lumières. Comment récupérer ça? C'est ça, El Nekamot Hashem. C'est-à-dire que quand on punit le rachat, il va chercher tout ce que le type qui est mort, il aurait pu apporter, il le ramène sur terre. C'est la récupération de ce qui n'a pas été, qui n'est pas apparu parce que le rachat a tué le tzaddik. C'est la notion de nekama. C'est pas une vengeance émotionnelle ou sentimentale de rage. C'est récupérer la kedusha qui aurait pu apparaître dans ce monde. Et ça, on récupère, c'est ça la Nekama d'Hachem. L'orgueilleux, pourquoi ici, il parle de l'orgueilleux? Parce que la pire des choses, c'est l'orgueil, la suffisance. Dieu, comme l'Agmara dit, « Enanivaou yicholim ladour b'madurehad ». L'orgueilleux, il chasse Dieu de sa... Il prend la place de Dieu, il renvoie Dieu. Donc Dieu, il laisse l'orgueilleux tout seul. L'orgueilleux s'habille des vêtements du roi. Comme il est dit, Adonai malar geout lavesh. Dieu y règne et il s'habille, il est revêtu d'orgueil. D'orgueil. Celui qui s'habille de l'orgueil, donc ça revient qu'à Kadosh Baruch Hu. Celui qui est orgueilleux, il s'habille de l'apparat du roi. Donc il commet une double faute. Non seulement il est orgueilleux, et en plus il commet un crime de lèse-majesté, il utilise l'apparat, les ornements du roi. En portant atteinte aux justes des générations et en versant leur sang, les scélérats ont porté atteinte à la gloire de Dieu. En vérité, quand les nazis, ils attaquent Am Israël, ils s'attaquent pas à Am Israël, ils s'attaquent à Dieu. C'est le sens de la vengeance. Récupération des énergies qui ont été perdues. La Dona Yeshua à la Mecha Bechatecha Sela. À Kadosh Baruch Hu, à l'Éternel, appartient le salut. Et ta bénédiction descend sur ton peuple. C'est là, Éternel. Il est mort. Alors ici, Adonai Tzevaot Imanu, Misgabran Yaakov Sela. Akadosh Baruch Hu, Dieu des armées, Tzevaot, est avec nous. Le Dieu de Yaakov, Misgav, il est une citadelle, il est une tour pour nous. Donc c'est un refuge. Adonai Tzevaot, Hashem Adam Boter Bar. Heureux l'homme qui a confiance, qui est fidèle, qui a confiance en toi. Adonai Hushia, Melech Yanagom Korenu. Hashem, viens à notre secours. Toi, le roi qui exauce le jour où nous l'invoquons, il nous exauce quand on l'implore. Alors, il est mentionné ici 4 fois le nom de Dieu. 4 fois pour les 4 exils. Adam, alors pourquoi? Adam, en fautant, a transgressé les 3 fautes capitales. Donc, il a fait Avodah Zara. Il a eu les relations interdites puisqu'il a eu un rapport en dehors de son temps. Et il a tué, il a amené la mort sur terre. Il est à noter que l'essentiel de la faute n'est pas la Avodah Zara. La Avodah Zara n'est qu'une conséquence de quoi? Du désir sexuel. Le Shoresh, le Ramchal dit dans Da'at Vunot, que le Shoresh, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, que la source même de toutes les fautes, même de l'Avodah Zara, c'est le désir matériel, le désir, la tentation, le plaisir, la recherche du plaisir. Donc il a fait lui les trois fautes. Il y a une faute qui englobe le tout, c'est la médisance, la chanara. Alors les avotés à Kedoshim vont commencer à réparer. Les pères réparent ces trois fautes. Abraham, il proclame la royauté de Dieu. Donc il répare Avodazara. Yitzhak, il se donne en sacrifice sur l'autel, il répare Shfichut Damim, le sang versé. Et Yaakov, il est dans la perfection de la sexualité, la maîtrise totale de sa couche, la pureté, il est appelé Kadosh. La première goutte de semence qui sort de son corps va donner naissance à Réhouven. Comme il est dit, Réhouven Bechoriata, Kochi Bereshit Oni, la première goutte de semence, c'est un homme saint. Donc il répare cela. Et on voit que c'est la réparation de cette faute-là qui amène la réparation des trois. Donc c'est la faute essentielle. Les quatre royaumes qui ont dominé Israël et les exils qui en découlent sont la continuité de cette réparation qui a été commencée par nos avots. L'exil de Babel répare l'idolâtrie, celle des Perses, le meurtre, l'histoire de Purim, c'est la domination des Perses. Puis l'exil des Grecs, où il est décrété, là est marqué le droit de cuissage. Donc c'est le tikkun de la sexualité. Le dernier, il englobe les trois premiers. Le dernier, de par sa longueur, c'est Edom. Il englobe les trois premiers, c'est le lashon hara. Le tikkun doit se faire par la bouche. Donc il faut apprendre, pour amener la geoula, de maîtriser sa parole. Comme il dit le texte, il dit Adam, kol amal et pio. Kol Adam, tout le travail qu'un homme il peut faire, ça ne peut pas contrebalancer une parole inutile qu'il a dite. Donc c'est très grave la parole. Parler à tort et à travers. Parler de manière inutile. Parler des insultes, des méchancetés, des malédictions, tout ce qui est interdit de parler, toutes les choses négatives. Parler à la synagogue. Parler pendant la prière. Etc. Tout ça, la parole, c'est la pire des choses. L'homme, il doit maîtriser sa parole et ne parler qu'à bon escient, avec sainteté, avec, de manière positive. Et quand il s'adresse à son prochain, parler avec gentillesse, compassion, brachot, etc. Donc ça, c'est tout un travail exceptionnel. L'essentiel de l'Avodat Hashem, pratiquement, elle se situe à ce niveau-là. Pour Tikkun du quatrième exil. Oshia et Amecha, Uvarech et Nahalatecha, Ure Menase Madaolam. Alors il dit, Oshia et Amecha, viens sauver ton peuple. Et bénis ton héritage. Conduis-les comme un berger conduit son troupeau et soutiens-les jusqu'à la fin des temps. Le mot Yeshua est le salut qui vient sans que nous ayons à agir. La libération de cet exil ne dépend que de la volonté de Dieu. Elle est une délivrance totale et entière, une action du haut vers le bas qui peut arriver en un instant. Il n'y a pas d'étape. Comme dit le Zerachim Shon, chaque fois que Akadosh Baruch Hu, quand ça vient du bas vers le haut, alors c'est par étapes. Mais quand ça vient du haut vers le bas, ça se passe en un instant. L'exemple, c'est Makat Bechorot. En un instant, la délivrance, elle vient du haut vers le bas en un instant. Ton peuple est ton héritage. C'est quoi ton peuple et ton héritage? L'un de par le mérite des pères et l'autre par l'amour d'Israël. Et leur mérite propre, s'ils ont un mérite, entre guillemets. Tu nous fais traverser toutes les péripéties de l'histoire pour nous amener à bon port. Tu nous élèveras au-dessus de toutes les nations pour toujours. Parce que nous, le but, c'est pas qu'on est supérieur aux nations, c'est qu'on fait Avodat Hashem. Nafshenu hakita l'Adonai. Rachet tevot, nun het lamed. C'est un shem kadosh. Ezenu omaginenhu, ki bo ismah libenu, ki beshem kocho badahnu. Notre âme met son attente, on espère en Hashem. Il est notre aide et notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui, et nous avons confiance dans son saint nom. Alors que la Neshama est une petite partie d'Hachem. Elle est étouffée dans le corps. D'accord? Comme il est dit dans ses fers à Kané, il va dire, Kolman de Napah, Midile Kanapah. Cette expression, celui qui souffle dans une baudruche, il veut gonfler un ballon. Alors quand il souffle, il met l'air qui va rentrer dans le ballon, c'est l'air qui était contenu dans ses poumons. Donc, il a insufflé l'âme à l'homme, c'est une partie de lui-même. Donc, cette expression-là, elle n'est pas marquée dans le Zohar, mais elle est marquée dans Sefer HaKané. Alors, il dit, Kol man de napah, midile kanapah. Alors, la Neshama, c'est une partie de Dieu. Elle est introduite dans le corps, mais elle étouffe dans le corps. Le corps ne laisse pas s'exprimer la neshama. Il faut voir ce qu'on dit le Hassid Lutzato au début de son livre Derech Hashem. Elle s'exprime qu'à travers certains actes, mais elle s'exprime pas dans toute sa puissance. Dans le monde tel qu'il est, dans l'exil, l'âme est en attente. Elle attend qu'Hachem se dévoile pour lui permettre de prendre le dessus sur le corps. Comme il est marqué dans le Zohar, à la fin des temps, les hommes vont voler. Alors comment ils vont voler? C'est-à-dire que le corps sera réduit à sa plus simple expression. Il sera purifié et il sera porté par la Neshama. Ça veut dire, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, que Adam Harishon, quand il était dans le Gan Eden, alors il transcendait les quatre mondes, c'est-à-dire que les mondes, le monde matériel, le monde physique, il n'existait pas tel que nous le connaissons. Il était emboîté dans les mondes supérieurs. Donc il était raffiné. La notion de matérialité, elle était raffinée, fluide, une autre dimension. C'est quand l'homme, il a fauté, le monde de la matérialité, il s'est détaché. Donc la matérialité, elle tombe, elle prend d'épaisseur, elle prend l'apparence que nous lui connaissons. Le corps de l'homme lui-même, il se ratatine, il devient plus petit, il devient plus épais, plus la matérialité prend de l'ampleur, de l'épaisseur, de la gâchemioute, elle devient ce qui est. Mais dans cette gâchemioute-là, la Neshama est étouffée. À la fin des temps, ça reviendra comme c'était au début, que c'est la matérialité, elle sera emboîtée dans la Neshama. C'est la Neshama qui tirera, qui sera l'essentiel, donc le corps sera purifié. Donc c'est ça le concept que les corps ils vont voler. L'aide intervient après que les hommes agissent. Ça c'est la Ezra. Le bouclier signifie, Magen, signifie une intervention divine que nous ne voyons pas, comme on dit dans la Hamida. Magen Avraham, Magen, il nous préserve des choses qu'on sait même pas, on n'est même pas conscient qu'il le fait. La confiance en Hachem, le bitachon, et la mise en application de la foi dans les actes du quotidien. Comme il dit le Kadakema, il y a une différence entre la Emouna et le bitachon. La Emouna, c'est la théorie, et le bitachon, c'est le fruit de la théorie. Nous disons tous les jours, à la fin de la prière, les 13 principes de la Emouna, où il est dit, j'attends le Mashiach, je sais qu'il viendra, même s'il tarde, je continue à l'attendre, je l'espère. Tipita les joies, est-ce que tu as espéré, tu as guetté la venue du Mashiach? Comment il guette? Il dit parce qu'il ne m'imite pas l'aide. Il implore, il espère. Il veut voir la venue du Mashiach. C'est-à-dire, il espère l'intervention divine. Yehazecha Adonai Alino Kasher Hanula. Que de la bonté de l'Éternel s'étende sur nous, qu'il agisse sur nous, comme nous comptons, nous avons le bitachon vis-à-vis de lui, comme nous l'espérons, comme nous mettons la confiance en lui. Alors on dit, Al-Enu Adonai Hazdecha, montre-nous ton amour, tes bontés. Bishachara, Titenano, et ton secours, tu nous l'accorderas. Pour obtenir la bonté de Dieu, il suffit de l'espérer, de l'attendre comme quelque chose de sûr, bien que nous ne soyons pas très méritants. Le texte veut nous souligner que la délivrance finale ne dépend que de la qualité de notre espérance. Il y a deux mots pour dire espoir ou espérance. Yahoul ou tikva. Tikva, ça veut dire quelque chose qui n'est pas assuré. Le mot yahoul signifie qu'on est sûr et certain. Alors il n'y a aucun doute que la délivrance arrivera. C'est ce qui est marqué ici. On l'espère, ce yahoul, on l'espère. Quelque chose de certain qui va arriver. On ne sait pas quand il va arriver, mais on sait qu'il va arriver. Kuma ezrat alanu, ofdenu leman hasdecha. Lève-toi pour nous venir en aide. Délivre-nous, juste par l'effet de ta miséricorde, de ta bonté. Alors il dit, Anochi Adonai Elohecha Malcha Meretz Misraim, il n'y a pas marqué dans le passage que je suis moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai tiré du pays d'Égypte. Alhef Picha, il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alhef Picha va amalehu. Les miracles de la délivrance finale feront oublier ceux de la sortie d'Égypte. Cependant, en Égypte, le peuple d'Israël n'avait au départ aucun espoir de s'en sortir et de retrouver sa liberté. Alors quoi? Ils mirent toute leur espérance en Hachem. Ils demandèrent cette délivrance avec une telle volonté, une telle force, qu'Hachem entendit leur soupir, comme nous avons dit plus haut. Il n'est pas dit leur prière, il dit leur soupir. Hachem entendit la volonté d'être libéré. La bénédiction qui parvient aux hommes est limitée. Elle est ce qu'il faut pour que l'existence se perpétue. Cette abondance qui se répand dans les mondes n'est pas uniquement matérielle, mais aussi spirituelle. Viendra un jour où elle sera d'une puissance telle qu'il suffira d'ouvrir la bouche pour qu'elle en soit remplie. L'ouverture de la bouche fait allusion, bien sûr, à la prospérité matérielle. Mais plus encore, il suffira d'ouvrir la bouche pour dire des paroles de Torah et elles jailliront comme un torrent qui ne tarit jamais. Un hidouche entraîne un autre, et encore un autre, et encore un autre, sans fin, à profusion. C'est ce qui a marqué ici, que Dieu il ouvrira ses réservoirs de bénédiction. Iftar Hashem l'icha et otzero atov. Et v'yarik alechem bilchota vat belidai. Et il déversera sur vous les bénédictions sans cesse. Sans cesse. Ah, de la Gemara elle dit, dans Tani, il dit, ça veut dire quoi sans cesse? Ah, tchi ivlou siftotechem ilomardai. Tellement qu'il y en aura, on dira Hashem stop. Tellement qu'on va dire, c'est suffisant, que les lèvres elles vont se flétrir. Ashreaam shekachalo. Hashem Adonai Elohim, heureux l'homme qui reconnaît Hashem comme son Dieu. Hashem qui reconnaît Hashem qui est heureux le peuple que c'est ça son lot, ça c'est ça son héritage. Vani bechazdecha batahti, moi dans ta j'ai confiance en ta bonté. Yagel libi bishuatecha, mon cœur il se réjouit de ta délivrance, de ton secours. Ashira Adonai ki gamal alai, je veux chanter l'Éternel pour qu'il me comble de ses bienfaits. Nous disons dans la prière, béni, béni est notre Dieu qui nous a créés. Baruch Adonai l'Olam, amen ve amen. Il nous a créés pour que nous puissions l'honorer. Et il nous a distingués. Il nous a choisis de ceux qui sont dans l'erreur. Baruch Eloheinu shebiranu lirvodo, vivdilanu min hatohim. Il nous a donné une Torah de vérité et a implanté en nous la vie éternelle. Le mot Ashrei, heureux, ne se dit pas au singulier, se dit toujours au pluriel. Car pour être heureux, l'homme a besoin d'une multitude de choses. S'il lui en manque, ne serait-ce qu'une seule, il perd sa joie de vivre. Alors il dit, heureux le peuple qui a Hachem pour Dieu. Heureux le peuple qui a reçu la Torah. Toutes les bénédictions y sont contenues. Le chant dont il est question ici, est celui que Moshe et Israël entonneront à la fin des temps. Comme il dit, Az yashir Moshe, umne Israël ashira azot l'Adonai. Voyons brûler mort. Az, ça veut dire, à la fin des temps, Moshe Rabbeinu, il va chanter. Il va chanter. C'est pas qu'il a chanté au passé. Il va chanter. Le chant de la Shira, c'est une introduction au chant qui va être cité, qui va être récité, élevé à la gloire de Dieu au moment de la Géoula. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.